Chapitre 27. Germantown, dimanche 28 décembre 1980. Tony Harrod n'avait qu'à moitié conscience de ce que disaient Colben et Kepler, tandis qu'il le ramenait au Chestnut Hills Inn en fin de soirée. Harrod était affalé sur la banquette arrière de la voiture, une compresse glacée sur la tête. Sa concentration fluctuait au rythme des vagues de douleur qui déferlaient dans son crâne et sa nuque. Il ne savait pas exactement pourquoi Joseph Kepler était ici, ni d'où il sortait. « Du travail salopé, à mon avis, » commenta Kepler.
« Ouais, » approuva Colben. « Mais ne me dites pas que ça ne vous a pas plu. Vous avez vu la tête des passagers du bus quand le chauffeur a foncé ?»
Colben eut un rire bizarrement enfantin. « Et maintenant, vous avez 3 morts, 5 blessés et un bus démoli sur les bras. »«
Haynes va s'en occuper, » dit Colben. « Pas de problème. On nous a donné carte blanche en haut lieu, rappelez-vous. »«
Ça m'étonnerait que Barent soit ravi d'apprendre ce qui s'est passé. »«
Que Barent aille se faire foutre !»
Harrod gémit et ouvrit les yeux. Il faisait noir. Les rues étaient presque désertes. À chaque chaos de la voiture sur un pavé ou un rail de tramway, des élancements douloureux lui taraudaient la nuque. Il commença à parler, mais sa langue lui donna l'impression d'être trop épaisse et trop engourdie pour fonctionner. Il décida de refermer les yeux.
« Plus important était qu'il ne quitte pas la zone de sécurité, » disait Colben.
« Et si nous n'avions pas été là en renfort ?»«
Nous étions là. » Vous pensez que j'irai confier une tâche importante à ce connard là-derrière ?
Harrod garda les yeux fermés et se demanda de qui il parlait. Il entendit à nouveau la voix de Kepler. « Vous êtes sûr que ces deux-là sont manipulés par le vieux ?»«
Par Willy Borden ?» dit Colben. « Non, mais nous en sommes sûrs pour le juif. Et nous sommes sûrs que ces deux-là étaient en liaison avec le juif. » Barent pense que le Bosch ne cherchait pas seulement à démolir Trask.
Pourquoi Borden s'en est-il pris à Trask, au fait?
Colben éclata de rire une nouvelle fois.
Ce vieux Niemann avait envoyé quelques plombiers en Allemagne avec mission d'éliminer Borden. Ils ont fini dans des sacs à viande, et vous avez vu ce qui est arrivé à Trask.
Et pourquoi Borden est-il ici? Pour régler son compte à la vieille?
Qui diable le saurait? Tous ces vieux schlocks sont fous alliés.
Vous savez où est Borden en ce moment?
Vous croyez qu'on serait en train de courir dans tous les coins comme ça si on le savait? Selon Barent, la mère Fuller est notre meilleur appât. Mais je commence à en avoir marre d'attendre qu'il se passe quelque chose. C'est foutrement difficile de garder la crime et les flics du coin à distance.
Surtout quand on se sert des bus de la ville comme vous le faites.
Comme nous le faisons,
rectifia Colben. Et les deux hommes éclatèrent de rire.
Maria Chen leva un regard surpris lorsque Colben et un homme qui lui était inconnu ramenèrent Tony Harrod dans le salon de la suite.
« Votre patron a eu les yeux plus grands que le ventre !»
dit Colben en lâchant le bras de Harrod qui s'effondra sur le canapé. Harrod essaya de se redresser sur le bord de son siège, vacilla et replongea dans les coussins.
« Que s'est-il passé ?» demanda Maria Chen.
Ce cher Tony s'est fait surprendre par un petit ami jaloux dans la chambre d'une dame,
s'esclaffa Colben.
Un médecin l'a examiné au centre de contrôle, dit l'inconnu qui ressemblait un peu à Charlton Heston. À son avis, ce n'est rien de très grave, juste une légère commotion.
Il faut qu'on retourne là-bas, dit Colben. Maintenant que votre monsieur Harrod a semé le bordel dans notre opération, « ça va être la panique chez les nègres !»
Il désigna Maria Chen du doigt.
« Veillez à ce qu'il soit au centre de contrôle demain matin à 10 heures. Pigé ?»
Maria Chen ne prononça pas un mot. Son visage demeura impénétrable. Colben eut un grognement qui exprimait peut-être la satisfaction, et les deux hommes repartirent. Harrod ne perçut que des bribes de cette soirée. Il se rappela distinctement avoir vomi à plusieurs reprises dans la petite salle de bain carrelée, se rappela que Maria Chen l'avait déshabillé avec tendresse, et se souvint du contact rafraîchissant des draps sur sa peau. On lui appliqua des compresses froides sur le front durant toute la nuit. Il se réveilla une seule fois pour découvrir Mariachen allongée à ses côtés, sa peau brune ponctuée d'un slip et d'un soutien-gorge blanc. Il tendit une main vers elle, se sentit pris de vertige et ferma les yeux durant quelques secondes. Harrod se réveilla à 7 heures du matin avec une des pires migraines de son existence. Il tendit la main vers Mariachen, ne trouva personne et s'assit en gémissant. Il était perché au bord du lit et se demandait dans quel motel de Sunset Strip il se trouvait lorsqu'il se rappela ce qui s'était passé.
« Ah, mon Dieu !» lâcha-t-il.
Il lui fallut 3 quarts d'heure pour se doucher et se raser. Il était convaincu que le moindre mouvement brusque de sa part ferait tomber sa tête par terre, et il n'avait aucune envie de ramper à 4 pattes dans les ténèbres pour la retrouver. Mariachen entra à grand bruit alors que Harrod se dirigeait péniblement vers le canapé, vêtu de son peignoir orange.
« Bonjour !»
dit-elle.
« Tu parles !»« Il fait un temps superbe !»« Rien à foutre !»
« J'ai rapporté 2 quoi petit-déjeuner de la cafétéria. Ça vous dirait de manger quelque chose ?»«
Et vous, ça vous dirait de fermer votre gueule ?»
Mariachen sourit et posa les 2 sachets blancs qu'elle portait sur la tablette installée à l'autre bout de la pièce. Elle fouilla son sac à main et en sortit le Browning.
« Écoutez-moi, Tony. Je vais vous suggérer une nouvelle fois de prendre votre petit-déjeuner avec moi. » Si vous me répondez encore par une grossièreté, ou si vous continuez à vous montrer aussi grognon, je vide le chargeur de ce pistolet sur le réfrigérateur. Je ne pense pas que le vacarme qui en résultera soit de nature à améliorer l'état de santé fort précaire qui est le vôtre en ce moment.
Harrod la fixa du regard.
« Vous n'oseriez pas. »
Mariachen arma le pistolet, le braqua sur le réfrigérateur, et détourna la tête, les yeux à demi fermés.
« Attendez !»
fit Harrod.
« Aimeriez-vous prendre votre petit déjeuner avec moi ?»
Harrod porta les 2 mains à ses tempes et les frictionna.
« J'en serais ravi, »
dit-il finalement. Maria avait rapporté 4 gobelets en plastique protégés par un couvercle. Quand ils eurent fini les œufs, le bacon et les steaks hachés, ils burent une 2nde dose de café.
« Je donnerais 10 000 $ pour savoir qui m'a assommé, » dit Harrod.
Mariachen lui présenta son chéquier et le stylo cross avec lequel il signait ses contrats.
« Il s'agit du shérif Bobby Joe Gentry. Il vient de Charleston. Barent pense qu'il est ici à la recherche de la fille, que la fille est à la recherche de Melanie Fuller et qu'ils ont tous quelque chose à voir avec Willie. »
Harrod reposa son gobelet et épongea le café renversé avec le pan de son peignoir.
« Comment diable savez-vous ça ?»«
C'est Joseph qui me l'a dit. »«
Qui est Joseph, bordel ?»«
Ah ah !»
dit Mariachen en désignant le réfrigérateur.
« Qui est Joseph ?»«
Joseph Kepler. »«
Kepler ?
J'ai cru rêver qu'il était ici. Qu'est-ce que Kepler fiche ici, nom de Dieu ?»«
Monsieur Barent l'a envoyé ici hier. » Monsieur Colben et lui se trouvaient devant l'hôtel lorsque les hommes de Haines leur ont signalé par radio que le shérif et la fille s'enfuyaient. Monsieur Barent ne souhaitait pas qu'ils s'en aillent. C'est Monsieur Colben qui était le premier à utiliser le bus.
Le quoi ?
Mariachen lui expliqua ce qui s'était passé.
Bordel ! Oh, c'est fantastique !
Dit Harrod. Il ferma les yeux et se massa lentement le cuir chevelu.
« Ce connard de flic m'a laissé une bosse aussi grosse que l'ego de Warren Beatty. Avec quoi il m'a tapé dessus ?»«
Avec son poing. »«
Sans déconner ?»«
Sans déconner. »
Harrod ouvrait les yeux.
« Et c'est J.P. Kepler, cet hémorroïde inflammable qui vous a raconté tout ça ? Vous avez couché avec lui ou quoi ?»«
Joseph et moi avons fait du jogging ensemble ce matin. »
« Il loge ici ?»«
Chambre 1010, juste à côté de Haines et de Monsieur Colben. »
Harrod se leva, retrouva l'équilibre qu'il avait failli perdre et se dirigea d'un pas hésitant vers la salle de bain.
« Monsieur Colben souhaite que vous soyez au centre de contrôle à 10 heures.
dit Maria Chen. Harrod sourit, vint récupérer l'automatique et répondit
« Dites-lui d'aller se faire mettre !»
Le téléphone se mit à sonner à 10h13. À 10h15 et 30 secondes, Tony Harrod se redressa et attrapa le combiné.
« Ouais ? Harrod, répliquez ici, nom de Dieu !»«
C'est vous, Chuck ?»«
Ouais.
Allez vous faire mettre, Chuck !»
Maria Chen décrocha lorsque le téléphone sonna de nouveau dans la soirée. Harrod venait de finir de s'habiller pour aller dîner.
« Je crois que c'est pour vous, Tony. »
Harrod saisit le combiné.
« Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?»«
Je pense que vous devriez voir ça, » dit Kepler.
« Quoi donc ? » ?»«
Le shérif avec qui vous avez fait un tour de dansière se balade dans les rues. »«
Ah ouais ? Où ça ?»
« Venez au centre de contrôle et on vous montrera. »«
Vous pouvez m'envoyer une voiture ?»«
Un des agents en poste au motel va vous conduire. »«
Ok. Écoutez, ne laissez pas filer ce trouduc. J'ai un compte à régler avec lui. »«
Alors vous avez intérêt à vous presser, » dit Kepler.
Il faisait sombre et la neige tombait à gros flocons lorsque Harrod entra dans la minuscule salle de contrôle. Kepler, penché sur l'un des écrans vidéo, leva les yeux en les apercevant.
« Bonsoir, Tony.
Bonsoir, Miss Chen. »
« Alors, il est où ce putain de super flic ?»
Kepler désigna un moniteur montrant la maison d'Anne Bishop et la rue déserte.
« Ils sont entrés dans Queen Lane il y a 20 minutes, en passant devant le poste d'observation du groupe bleu. »«
Et maintenant, où est-il ? » ?»«
On n'en sait rien. Les hommes de Colben ont été incapables de le suivre. »
Incapable de le suivre ? Bon Dieu ! Colben doit avoir 30 ou 40 agents dans le coin.
Presque une centaine, coupa Kepler. Washington a envoyé des renforts ce matin.
Une centaine de G-men ? Et ils n'arrivent pas à suivre ce gros lard de flic blanc dans un ghetto plein de bamboula ?
Quelques-uns des hommes installés devant les consoles lui lancèrent un regard réprobateur. Et Kepler fit signe à Harrod et à Maria Chen de le suivre dans le bureau de Colben. Une fois la porte refermée, Kepler reprit.
Les hommes du groupe Or avaient ordre de suivre le shérif et les jeunes noirs qui l'accompagnent. Mais le groupe Or a été incapable de remplir sa mission parce que leur véhicule de surveillance a été temporairement mis hors d'état de fonctionner.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Quelqu'un a crevé les pneus de la fausse camionnette AT&T dans laquelle il se trouvait.
Harrod éclata de rire.
Pourquoi ne les ont-ils pas suivis à pied ?
Kepler s'enfonça un peu plus dans le fauteuil de Colben et croisa les doigts sur son ventre plat.
Premièrement, parce que tous les membres du groupe Or étaient blancs et qu'ils étaient sûrs de se faire remarquer. Deuxièmement, parce qu'ils avaient ordre de ne pas quitter leur véhicule.
« Pourquoi donc ?»
Kepler eut un sourire quasi imperceptible.
« Ce quartier est mal fréquenté. Colben et les autres avaient peur que la camionnette ne soit pillée. »
Harrod éclata d'un rire tonitruant. Puis il demanda.
« Où diable est passé Chucky, au fait ?»
D'un mouvement du menton, Kepler indiqua un récepteur radio posé sur la console près de la paroi nord du bureau. Il émettait un grésillement entrecoupé de bruits de voix.
« Il est à bord de son hélicoptère. »«
Tu m'étonnes, »
dit Harrod. Il croisa les bras et eut un rictus.
« Je veux voir à quoi ressemble ce foutu shérif. »
Kepler appuya sur le bouton de l'interphone et prononça quelques mots à voix basse. 30 secondes plus tard, un des moniteurs vidéo s'alluma et transmit une bande montrant Gentry et ses compagnons en train de marcher dans la rue. L'image tirait sur le verre, un effet de l'objectif spécial qu'il avait enregistré, mais Harrod distingua sans peine l'homme massif parmi les jeunes noirs. Le code numérique de la bande et l'heure de son enregistrement figuraient en bas de l'écran.
« On va pas tarder à se revoir, toi et moi, » murmura Harrod.
« On a une autre équipe de surveillance sur le terrain, » dit Kepler. « Et nous sommes presque sûrs que toute la bande regagnera tôt ou tard le foyer où le gang a l'habitude de se réunir. » Soudain, le récepteur radio se mit à couiner et Kepler augmenta le volume. La voix de Charles Colben était presque tremblante d'excitation.
Leader rouge à château! Leader rouge à château! Nous avons un foyer d'incendie dans la rue près de CH1. Je répète, nous avons un...
Négatif.
Nous avons deux foyers d'incendie dans la rue près de CH1.
Qu'est-ce que CH1? Demanda Maria Chen.
Community House, dit Kepler en réglant le moniteur vidéo. Le grand bâtiment dont je viens de vous parler, là où se trouve le quartier général du gang. Charles l'a baptisé Coon Hall.
Sur l'écran, les flammes étaient visibles à un demi-pâté de maison de distance. La caméra devait se trouver dans un véhicule garé le long du trottoir. Filmées par un objectif à vision nocturne, les deux voitures incendiées ressemblaient à des bûchers ardents qui envahissaient toute l'image. Quelqu'un changea l'objectif. Il y avait assez de lumière pour qu'on puisse distinguer des silhouettes sombres qui se précipitaient hors du bâtiment en brandissant des armes. Kepler ralluma le récepteur radio.
Négatif, leader rouge. Ici, groupe vert, près de CH1. Aucun signe de l'intrus.
Eh bien, bon sang, fit la voix de Colben. Envoyez jaune et gris pour fouiller le coin.
Pourpre, vous avez envoyé quelqu'un par le nord?
Négatif, leader rouge.
Château, vous suivez les opérations?
Affirmatif, leader rouge, dit d'une voix lasse l'agent en poste dans la salle de contrôle.
Envoyez le camion UM qu'on a utilisé hier pour m'éteindre ce feu avant que les pompiers s'en mêlent.
Message reçu, leader rouge.
Qu'est-ce que c'est que ce camion UM? Demanda Harrod.
Le camion d'urgence médicale. Colben l'a fait venir de New York. C'est une des raisons pour lesquelles cette opération nous coûte $200,000 par jour.
Harrod secoua la tête.
Sans fédé, un hélicoptère, des camions d'urgence... Tout ça pour mettre la main sur deux vieux schnocks qui n'ont même plus de dents.
Peut-être, dit Kepler en posant les pieds sur le bureau de Colben, prenant ses aises. Mais l'un d'entre eux, au moins, peut encore mordre.
Harrod et Maria Chen firent pivoter leur fauteuil et se calèrent le dos pour profiter du spectacle. Le mardi, Colben organisa une conférence à 9 heures du matin et à 5 000 pieds d'altitude. Harrod laissa éclater sa répugnance, mais monta néanmoins à bord de l'hélicoptère. Kepler et Maria Chen échangèrent un sourire, les joues encore légèrement empourprées par leurs 10 kilomètres de jogging dans Chestnut Hill. Richard Haynes prit la place du copilote, cependant que le pilote neutre de Colben gardait un air inexpressif derrière ses lunettes noires. Colben fit pivoter son siège et fit face aux 3 personnes assises sur la banquette, pendant que l'hélicoptère entamait un vol qui devait les conduire vers le sud, le fleuve et Fairmount Park, puis vers l'est, la voie express, et finalement vers le nord et vers l'ouest, pour regagner Germantown.
Nous ne savons toujours pas ce qui a déclenché la petite bagarre hier soir, au cours de laquelle les négros se sont canardés les uns les autres, dit Colben. Il se peut que Willy ou la Vioque n'y soient pas étrangers. Mais le nombre de types restés sur le carreau a sans doute aidé Barent à prendre sa décision. Il nous a donné le feu vert. L'opération est lancée.
Tant mieux, dit Harrod, parce que je fous le camp d'ici avant ce soir.
Négatif. Nous avons 48 heures pour faire sortir votre ami Willy de son trou. Ensuite, on s'occupe de cette salope de Fuller.
Vous ne savez même pas si Willy est ici.
Je continue de penser qu'il est mort.
Colben secoua la tête et pointa un doigt vers Harrod.
C'est faux. Vous savez aussi bien que nous que ce vieux salaud est dans le coin et qu'il mijote quelque chose. Nous ne savons pas si la Fuller est avec lui ou contre lui, mais à partir de jeudi matin, ça n'aura plus d'importance.
Pourquoi attendre aussi longtemps? Demanda Kepler.
Harrod est ici. Vos hommes sont en place.
Colben haussa les épaules.
Barent veut utiliser le juif. Si Willy mord à l'hameçon, on réagit aussitôt. Sinon, on élimine le juif, on en finit avec la vieille, et on regarde ce qui se passe ensuite.
Quel juif?
Demanda Harrod.
Un des vieux pions de votre ami Willy, expliqua Colben. Barent lui a fait son petit numéro de conditionnement, et il veut que ce soit lui qui s'occupe du Bosch.
Arrêtez de dire que c'est mon ami, lança sèchement Harrod.
D'accord.
Votre patron, ça ira ?
Laissez tomber tous les deux, dit posément Kepler. Exposez le plan à Harrod.
Kolben se pencha vers le pilote et lui murmura quelques mots. Ils étaient immobilisés à 5000 pieds au-dessus de la géométrie gris-brun de Germantown.
Jeudi matin, nous isolerons toute la zone. Personne ne rentre, personne ne sort. Nous aurons localisé la Fuller avec précision. La plupart du temps, elle passe la nuit dans cette ruine, sur Germantown Avenue, Grumblethorpe. Haynes commandera un groupe d'intervention qui y fera irruption. Les agents s'occuperont de cette Bishop et du gamin qu'elle utilise. Il ne restera plus que Mélanie Fuller.
Vous voyez, on vous la porte sur un plateau, Tony.
Harrod croisa les bras et contempla les rues désertes.
Et ensuite ?
Ensuite, vous l'éliminez.
Comme ça ?
Comme ça, Harrod.
Barent vous permet d'utiliser qui vous voulez.
Mais c'est vous qui devez faire le boulot.
Pourquoi moi ?
Votre écho, Harrod. Votre écho.
Je pensais que vous auriez souhaité l'interroger.
Kepler prit la parole.
Nous l'avons envisagé, mais M. Barent a décidé qu'il était plus important de la neutraliser. Notre but est avant tout de faire sortir le vieux de sa cachette.
Harrod mâchonna l'ongle de son pouce et regarda les toits.
Et si je ne réussis pas à l'éliminer ?
Kolben sourit.
Dans ce cas, nous nous occuperons d'elle, et il restera encore un siège vacant à pourvoir au club.
Personne n'en aura le cœur brisé, Harrod. Mais nous devons d'abord essayer le juif,
dit Kepler.
Nous ne savons pas quel résultat ça donnera.
Quand est-ce que ça se passe ?
Demanda Harrod. Kolben consulta sa montre.
C'est déjà commencé.
Il fit signe au pilote de descendre.
Vous voulez voir ?